Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 87.7 FM Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, je me rends au centre culturel Léo Lagrange à la rencontre d'Aurélia, chargée d'accueil et des adhérents, et de Mathilde, médiatrice culturelle. Donc on est aujourd'hui au centre culturel Léo Lagrange, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette structure ?
Alors, le centre culturel Léo Lagrange est situé à proximité du centre-ville, entre les quartiers Saint-Germain, Saint-Leu et Saint-Maurice. Et on est un lieu culturel qui est à la fois un lieu de formation artistique. Donc on propose des ateliers pour les enfants, ados, adultes, concernant tout ce qui est graphique, corporel, théâtre et musique.
On a une programmation artistique et également on fait de la médiation culturelle sur deux quartiers privilégiés, Saint-Leu et Saint-Maurice.
Comment se déroulent les ateliers ici ?
Concrètement, on a une quarantaine d'ateliers au centre culturel et on peut s'inscrire à tout moment directement à l'accueil ou alors voir sur notre site internet pour les ateliers. Les inscriptions se font le plus souvent au partir du mois de septembre. Pour cette année, les ateliers, bien sûr, sont complets, mais l'année prochaine, vous pouvez dès à présent vous inscrire à partir du samedi 7 septembre 2024 pour la saison 24-25. Pour les inscriptions, on vient directement au centre culturel Léo Lagrange le samedi 7 septembre et il y a des jauges dans tous les ateliers. C'est-à-dire que ça dépend, il y en a c'est 8, il y en a c'est 12, il y en a c'est 15. Donc voilà. Et nous, on pratique ce qu'on appelle les réinscriptions. C'est-à-dire qu'on fait une continuité pédagogique avec nos adhérents. Donc on réinscrit nos adhérents en mai-juin et les places qui nous restent sont celles qui sont ouvertes en septembre. Et donc on travaille au premier arrivé, premier servi.
Et du coup concrètement, comment on adhère au centre culturel ?
Tout simplement, tout enfant à partir de 6 mois peut adhérer avec ses parents. Il y a une fiche d'inscription à remplir et il y a 10 euros d'adhésion par enfant. Et si par famille, s'il y en a plusieurs enfants, le premier est à 10 et les autres à 5 euros.
Et au niveau des ateliers, on a des limites d'âge ou ça va dépendre ?
Ça dépendra des ateliers. Il y a des ateliers qui sont pour les 6 mois à 3 ans. Donc là, c'est très cadré. D'autres ateliers sont à partir de 17 ans et jusqu'à 80, 90 ans. Il n'y a pas de problème. On accepte tout le monde.
Donc Mathilde, tu nous parlais des différents types d'ateliers, donc les musicales, théâtrales, graphiques et corporelles. Est-ce que vous avez des exemples d'ateliers précisément ?
Oui, par exemple, le mercredi matin, on a un atelier qui s'appelle « Touche à tout ». Et ça permet de toucher à tout, c'est-à-dire au niveau du cirque, de l'éveil musical et de l'éveil art plastique. Et donc, un enfant peut découvrir les trois activités sur la saison. Et donc, voilà.
Donc, en dehors des ateliers, vous nous le disiez, vous avez aussi des expositions et des spectacles. Comment ça s'organise tout ça ?
Alors, nous déterminons une programmation cette année. Par exemple, là, on a terminé la programmation et des expositions et des spectacles. On travaille sur la brochure. Ensuite, on envoie toutes nos fiches de programmation par tranche d'âge, on va dire, parce que nous, notre spécialité, c'est plutôt le jeune public. Donc, on a des spectacles pour les crèches maternelles. On envoie le tout en mai-juin. Il y a un système de réservation avec des devis que Aurélia réalise. Et puis ensuite, on a aussi des séances tout public le soir, où en fait, là, c'est tout au long de l'année, on peut s'inscrire aussi bien les enfants, les ados, les adultes.
Au niveau des expositions, comment vous choisissez ce que vous exposez ? Est-ce qu'il y a des critères de sélection ?
Alors, ça dépend. Pour la saison 2023-2024, on a choisi de faire Made in Léo, c'est-à-dire que ce sont des connaissances. Mathilde a exposé pendant 2 mois. Et là, la dernière exposition, c'est Irvine Lelier, qui est notre résident. L'année prochaine, je crois que vous avez fait la saison avec des gens qui ont croisé la route de Léo Lagrange ou également des personnes qui viennent taper à la porte pour dire « Bonjour, j'ai une proposition d'exposition. Est-ce que ça peut vous plaire ?»
Ok. Donc Mathilde, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton exposition, même si elle n'est plus disponible ?
Alors oui, donc c'est une exposition que j'avais consacrée à la fois sur le thème de la ville et le thème du vêtement, parce que j'ai intitulé mon exposition « Ce qui m'entoure ». Donc on a à la fois le vêtement, c'est vraiment ce qui m'entoure au niveau corporellement, mais aussi pour tout le monde. C'est une invitation à porter un regard sur ce qui nous entoure, donc à la fois notre corps et la ville, aussi. Et du coup, moi, j'utilise à la fois le dessin, la peinture, le collage et la photographie. J'ai testé cette année la photographie imprimée sur du tissu. Donc comme ça, on a un lien entre des photographies sur la ville qui sont imprimées sur du tissu, donc le lien avec le vêtement. Voilà.
Et donc actuellement, on a une exposition d'Irvine Lelier, c'est ça ?
Oui, alors Irvine Lelier, c'est un photographe qui est actuellement en résidence artistique au Centre culturel Léo Lagrange, donc depuis septembre 2023. Mmh. Et en ce moment, en fait, c'est une exposition de tirage unique de Polaroid. Lui, c'est pareil, c'est sur le thème de la ville. On est vraiment dans une promenade à travers le quartier Saint-Leu, la France et aussi la Lettonie, un des derniers voyages qu'il a fait au mois de février.
Donc ça, c'est pour les expositions. Et au niveau des spectacles, comment vous organisez tout ça ?
Alors, pour les spectacles, c'est un peu plus différent. Ça dépend. Il y en a des partenariats. On fait des partenariats avec la Comédie Picardie, avec le Festival Qui Danse, avec le Réseau O. Donc là, c'est plutôt eux qui nous proposent des spectacles et nous qui choisissons. Et après, on voit. Et après, on fait beaucoup. On est beaucoup quand même basé sur des compagnies régionales. Donc, du versant sud et quelques-unes du versant nord.
Et actuellement, qu'est-ce qu'on a comme spectacle de programmé au Centre culturel Léo Lagrange ?
Alors prochainement, on a encore quatre spectacles. Couveuse, qui est un spectacle de marionnettes pour enfants par la compagnie Infra, qui se déroulera le jeudi 11 avril et vendredi 12 avril avec trois séances scolaires. On a le spectacle Histoire de graffeuse, qui est un spectacle conférence spectaculaire par rapport... au thème du graphe,
mais
voilà.
à travers
les femmes
qui osent aller dans la rue pour s'exprimer.
On a après le spectacle Jour jaune, qui est un spectacle pour les tout petits de 3 mois à 5 ans, qui est un spectacle de danse, de solo de danse. Et en dernier spectacle, mais plutôt temps fort, on a la carte blanche à la compagnie Belle et Pâte.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de ce temps fort ?
Alors, c'est un temps fort sur une journée, le samedi 25 mai. C'est un temps fort avec quatre spectacles pour la journée. On a un spectacle qui s'appelle Princesse de papier à partir de 2 ans. On a deux spectacles à partir de 6 ans, un qui est Cabaret magique et un autre Cabaret. Et un spectacle qui s'appelle Le crépuscule du chapiteau. Des spectacles familiaux, on peut voir avec les tout petits et les plus grands. Des spectacles où, dans l'un des spectacles cabaret magique, il y aura le groupe de Léo Lagrange, grand en cirque, qui participe à ce spectacle avec des professionnels. Donc un chouette spectacle de magie. Et également, dans ce festival, enfin cette grande journée, on a des ateliers parents-enfants. Donc pour pouvoir accéder à ces ateliers, il faut être adhérent, mais vous pouvez toujours adhérer au centre culturel à n'importe quel moment de la journée ou de la semaine d'avant. Des ateliers donc pop-up et deux ateliers initiation cirque par enfant et un atelier roue allemande. Alors la roue allemande, c'est très très grand et c'est sur le parking et c'est très chouette à voir. Dans cette journée, il y a également des surprises. On ne peut pas tout vous dévoiler tout de suite, mais également des expositions magiques. À vous d'apprendre les tours.
Et du coup, au niveau des horaires, ça va être quoi le 25 mai ?
Alors, pour le 25 mai, les horaires, le premier spectacle est à 10h30, mais l'ouverture du centre culturel sera à 10h, et le dernier spectacle est à 19h30, donc je pense que la fermeture du festival, ça sera 21h. Voilà, vous avez à peu près... Et durant le festival, il y aura crêpes parties toute la journée. Crêpes sucrées à 16h et crêpes salées le midi et le soir.
Et au niveau des spectacles, justement, comment est-ce qu'on achète ces places ? Est-ce qu'il faut réserver en avance ?
Alors, pour les spectacles, il y a besoin de réserver, donc soit en appelant directement le centre culturel ou alors en réservant par mail, donc il n'y a pas de problème. Les spectacles, on a plusieurs tarifs. On a 5€ pour les enfants, 7€ pour les adhérents et pour les adultes adhérents, en groupe, et 10€ pour le plein tarif. Et spécifiquement pour le festival Balles et Pattes, tous les spectacles sont à 3€.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la compagnie Balles et Pattes ?
La compagnie Balles et Pattes, c'est une compagnie de cirque basée à Lille. Et elle vient fêter ses 20 ans au centre culturel parce que un des membres de cette compagnie fondateur a fait les cours au centre culturel et au Lagrange, en fait. Donc il vient tous les mercredis donner ses cours de cirque, faire son laboratoire avec ses jeunes, apprendre et essayer. Donc ces tours de magie qui vont, c'est cette cirque. Donc voilà, directement, ça fait, je crois, 15 ans 15 ou 16 ans qui sont depuis ici à Amiens, et ils ont été en résidence 3 ans au centre culturel. Donc ça veut dire que c'est un peu historique du fait qu'ils viennent de Lille à Amiens, voilà.
Et du coup, on a aussi un autre gros temps fort au centre culturel Léo Lagrange, c'est Nuances Urbaines, c'est ça ?
Oui, alors ça sera la deuxième édition du festival Nuances Urbaines qui aura lieu le samedi 8 juin 2024. Donc nous, on est plus sur l'après-midi, donc 15h, 21h. Et en fait, l'objectif, c'est un peu le bien vivre ensemble à travers l'art urbain. C'est-à-dire, nous, on va mettre en place une scène ouverte où des jeunes pourront... par exemple, se présenter au niveau du slam. On aimerait bien aussi qu'il y ait la danse, de la musique. Nous allons avoir aussi nos présentations d'ateliers musique, violon et violoncelle du Centre culturel Léo Lagrange. Ensuite, nous allons aussi avoir notre artiste en résidence qui va montrer ses photographies qu'il a faites dans le cadre de nos actions de médiation culturelle avec les habitants du quartier Saint-Leu. Donc voilà, il va y avoir un condensé en fait d'activités. Notre partenaire aussi, c'est l'espace jeunesse du secteur centre avec Abed et Nouni. Donc on avait créé cette édition, la première édition en mai 2023. Et du coup, comme on a eu quand même de bons retours, on espère avoir la même chose, surtout avec le soleil. Donc voilà, on espère... Voilà, qui est aussi ce qu'on appelle un peu de l'intergénérationnel aussi, puis une mixité de public, que ce soit culturel, de tranches d'âge différentes.
Et au niveau des infos pratiques, pareil, il faut réserver, on peut venir le jour...
Alors, on ne va pas mettre pour l'instant de réservation, c'est un peu si quelqu'un a envie de venir passer. À 15h, rester une heure, en plus on va avoir d'autres activités... Il y aura aussi forcément un petit goûter, donc voilà. Et puis, il y aura une petite restitution du théâtre intergénérationnel de l'espace jeunesse. Donc voilà, c'est un peu des portes ouvertes à la fin de la saison, où à la fois on mixe des présentations d'ateliers du centre culturel. Il y aura aussi l'exposition des travaux de tous les élèves du centre d'art aussi. Donc enfants, ados, adultes, que l'on pourra voir au rez-de-chaussée, au premier étage. Et puis après, le côté festif, plus dans le jardin.
Et il me semble que vous avez aussi des actions de médiation. Vous faites des actions de médiation. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux, trois mots ?
Alors, les actions de médiation culturelle, on les mène dans le cadre de la résidence artistique. Donc cette année, pour la saison 2023-2024, comme je le disais, on est avec l'artiste Irvine Lelier, photographe. Donc il a mené en fait avec différents groupes plusieurs ateliers. Donc ça peut être des après-midi ou sous forme de stage avec des enfants ou des familles. Donc en fait, c'est à la fois soit porter un regard sur leur quartier par le biais du Polaroid notamment, ou après ça peut être par exemple là il va mettre en place des apéros cyano. Donc le cyanotype en fait c'est une technique aussi de photographie sans forcément aller dans le laboratoire photo, mais voir un peu, puisque la photographie ça veut dire écriture de la lumière, ce que l'on peut faire avec des objets ou des végétaux posés sur un support sensible. Donc voilà, après ce qu'on peut dire c'est qu'on a aussi d'autres actions comme l'atelier de la cordée tous les jeudis matins. En fait, c'est un atelier gratuit pour les femmes, essentiellement. Mais après, des hommes peuvent venir. Et l'objectif, c'est de créer ensemble dans le but d'exposer, de valoriser le travail. Ça peut être pour un temps fort. Donc, pour, par exemple, le festival Nuances Urbaines, les participantes sont en ce moment en train de créer des mandalas en création textile. Et du coup, on va le valoriser lors du 8 juin. On va, on l'espère, installer leurs propositions dans le jardin.
Et j'ai cru voir aussi, en arrivant dans le hall, un petit calepin. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu ?
Oui. Alors, le petit calepin, c'est un annuaire trimestriel qui est en fait un outil que l'on a mis en place en 2018 dans le cadre... justement de tout ce qui est action de médiation culturelle. Il ne faut pas oublier nos financeurs, nos subventionneurs qui sont Amiens Métropole dans le cadre de la politique de la ville. Et en fait, c'est un petit calepin de Saint-Leu. Donc, en fait, j'essaye de récupérer les informations des structures partenaires dans le quartier Saint-Leu. Donc, ça va de la Lune des Pirates à la Maison du Théâtre, mais aussi des structures plutôt sociales, l'espace de vie sociale, Rue Gaudissart et le dispositif de réussite éducative. Et ensemble, on essaye d'avoir d'un côté... à montrer les rendez-vous qui sont réguliers, comme l'accordé ou les petits cafés parents-enfants. Et après, au trimestre, donc là, pour le dernier trimestre de la saison, on a avril-mai-juin pour le printemps. Et voilà, les habitants vont avoir dans leur boîte toilette le petit calepin où on va leur annoncer la raiderie. On a aussi la galerie Rêve Lucide qui est un partenaire, puisqu'on peut parler de leur exposition de street art. Le ciné Saint-Leu, enfin voilà. C'est vraiment s'informer de ce qui se passe dans le quartier.
Où est-ce qu'on peut suivre les actualités du Centre culturel ?
Alors, on peut nous suivre sur Instagram et Facebook. Je crois que c'est Centre culturel Léo Lagrange, tout simplement. Et également sur notre site internet www.ccll-amiens.fr.
Et est-ce que vous avez déjà des nouveautés de prévues pour la saison prochaine ou des choses à nous dire ?
Alors, on peut déjà vous annoncer que notre fête d'ouverture sera le samedi 28 septembre 2024. Donc, ça ouvre notre saison. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus ? On a un gros projet avec le cirque au mois de mai 2025. Voilà, donc, qui s'appelle...
Le Douar,
voilà.
Et puis, on aura aussi des temps forts avec notre artiste en résidence. On aura des stages... Et puis, voilà, c'est déjà bien.
Et puis, après, vous pourrez retrouver sur nos sites internet, nos réseaux, à partir du mois de juin 2024, toute notre programmation.
Voilà.
Bah, rendez-vous en septembre pour parler de la programmation 2024-2025, alors.
Voilà. À bientôt.
À bientôt.
Aurélia, chargée d'accueil et des adhérents, et Mathilde, médiatrice culturelle, nous ont présenté le Centre culturel Léo Lagrange et ses actualités. Je vous propose maintenant de continuer la série Au cœur du COP, réalisée par Hugo, étudiant du Master 2 Journalisme de l'UPJV, avec le troisième épisode.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce qui vient de se passer au stade du Heysel à Bruxelles est à la fois ahurissant, dramatique et révoltant.
Au cœur du COP, épisode 3, Regard d'experts. Bienvenue dans ce troisième épisode de Au cœur du COP. Préparez-vous à élargir vos horizons alors que nous mettons en lumière les regards d'experts du domaine. Paul Bartolucci, docteur en sociologie à l'Université de Strasbourg, a écrit une thèse en 2012 sur la sociologie des supporters de football, la persistance du militantisme sportif en France, Allemagne et Italie. Dans celle-ci, il offre sa propre définition du supporter.
Être supporter, c'est vivre le football sur un mode communautaire. Qu'il s'agisse de la grande communauté regroupant l'ensemble des supporters d'un même club, ce que je nomme tifosérie, ou qu'il s'agisse de réseaux d'affinités plus restreints, associations, groupes, cercles, bandes, etc. Le supporter n'assiste pas seulement avec passion au spectacle sportif, il s'approprie littéralement les notions de compétition et de performance qui s'y rattachent. Historiquement, une corrélation s'établit entre la construction d'un espace autonome propre au public et ce que Alain Ehrenberg a pu nommer « culte de la performance ». Le supporter, loin de se satisfaire de l'observation attentive du match, apparaît comme un compétiteur qui désire éprouver le sentiment de victoire, ne se contentant pas de vivre l'éventuel succès de son équipe par procuration.
Dans sa thèse, Paul constate que les premières études sur les supporters de football, axées sur le hooliganisme, ont été principalement menées par des chercheurs britanniques à la fin des années 1960. Dans le reste de l'Europe, les travaux sociologiques ou anthropologiques sur les supporters n'ont émergé qu'à la fin des années 70 ou au début des années 80. Selon lui, les travaux initiaux de chercheurs tels que Ian Taylor et John Clark, bien que centrés sur l'Angleterre des années 60 et 70, offrent des perspectives pertinentes pour comprendre le supporterisme actuel. Ces sociologues britanniques ont en effet exploré les raisons du développement du hooliganisme et de la violence potentielle des supporters. Ian Taylor, dès 1969, avance l'idée que le hooliganisme représente une forme de résistance de certaines catégories ouvrières contre la marchandisation croissante du football. La violence des hooligans, assimilée par Taylor à la classe ouvrière, serait motivée par la défense du football en tant que sport populaire et à la prévention de son appropriation par les classes plus aisées. John Clark, dans les années 1970, rejoint cette perspective en mettant l'accent sur l'âge jeune des hooligans. Le hooliganisme devient une affirmation d'une sous-culture où la violence est valorisée comme moyen de protester contre la commercialisation du football. Les jeunes hooligans cherchent à occuper l'espace des tribunes populaires et à redéfinir la compétition. En résumé, les travaux pionniers de Taylor et Clark, bien qu'ancrés dans le contexte historique britannique, offrent des pistes de réflexion essentielles pour comprendre les origines ouvrières et culturelles du hooliganisme et son évolution dans le supporterisme contemporain. L'intérêt des Européens, et plus particulièrement des Français, pour le phénomène de supporterisme ne sera développé qu'à partir du 29 mai 1985. Ce jour-là, 39 personnes décéderont au stade du Heysel à Bruxelles, alors que se dispute la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre Liverpool et la Juventus de Turin. Sous la pression d'un mouvement de foule occasionné par des charges de hooligans anglais, des centaines de personnes furent comprimées et piétinées. Afin de comprendre la violence inouïe de ce drame, je vous propose d'écouter un extrait de l'émission de Soir 3 du 29 mai 1985.
Liverpool-Juventus de Turin, une finale de rêve entre deux grandes d'Europe attendues par des millions de téléspectateurs. Ce devait être la fête du football, mais tout s'est terminé par une tragédie. À l'origine, les hooligans. Peu avant la rencontre, ces fameux supporters britanniques ont une fois de plus provoqué des incidents très graves. Tout s'est passé très vite, bousculades, bagarres, les forces de police insuffisantes sont rapidement débordées. Sous la pression, les barrières cèdent, les spectateurs sont piétinés. Le bilan est déjà lourd, plus de 35 personnes auraient trouvé la mort dans ce vieux stade du SL. Pour le moment, on ne sait toujours pas si le match va être joué. Mais ce n'est pas le plus important. En tout cas, ce drame pose deux problèmes, la vétusté du stade et le comportement de certains supporters.
Outre les 39 décès, on comptabilisera aussi plus de 600 blessés. C'est précisément au cours de ces années-là qu'un hooliganisme à la française tend à apparaître sur le devant de la scène, en particulier dans les grandes villes, Paris, Strasbourg, Saint-Étienne, Toulouse, tandis que naissent parallèlement les premiers groupes ultra, notamment au sud du pays, comme à Marseille, Nice, Toulon ou Bordeaux. Toujours selon Paul Bartolucci, on retrouve différents types de supporters. Il les liste.
Certains supporters, axés sur la qualité esthétique du jeu, adoptent des comportements de consommateurs, boycottant parfois le stade en cas de spectacle décevant. Ils considèrent les joueurs comme des acteurs de théâtre, manifestant leur insatisfaction même en cas de victoire depuis les tribunes latérales. Ces supporters désinvoltes préfèrent suivre le match confortablement, évitant les copes et s'abstiennent de toute implication associative, adoptant un comportement de spectateur. En déplacement, ils sont rarement présents. Les supporters traditionnels, quant à eux, apprécient le match debout, s'investissent émotionnellement et manifestent une forte identification envers le club. La qualité du spectacle est importante, mais le résultat l'emporte. Ils valorisent le comportement des joueurs, cherchant à se rapprocher d'eux et des dirigeants pour former une communauté. Les ultras, passionnés et engagés, considèrent le match comme un spectacle total, créant une ambiance active dans les tribunes. Leur identification inclut le club, le groupe de supporters et le supporterisme ultra en tant que mouvement culturel. Ils mettent l'accent sur la qualité de l'ambiance plutôt que sur le jeu lui-même. Ils occupent les copes et se distinguent par des animations réfléchies. Enfin, les hooligans, bien que présents en nombre réduit, constituent une facette problématique du supporterisme. Ils vivent le football de manière guerrière, privilégiant la violence à la dimension sportive. Les hooligans sont souvent confrontés à des interdictions de stade et leur action violente se déroule parfois loin des enceintes sportives traditionnelles.
Un portrait commence à se dessiner au fur et à mesure que notre enquête avance. Dans le prochain podcast, nous irons à la rencontre des principaux intéressés, les supporters. Je conclurai cet épisode avec une citation de Paul Bartolucci : « Être supporter, ce n'est pas le devenir, c'est le demeurer. »